Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Moïse ben Sarah Atia Zichrono Livracha. Alors, la question de Dan David. Dan David me demande de parler des sgoulottes. Sgoulottes, c'est-à-dire les combines magiques, entre guillemets, permettant d'aider dans certains cas de problèmes. On fait une sorte d'action et c'est censé aider. C'est pas garanti, du moins dans la majorité des cas, c'est pas garanti. Quelle importance donner à cela? Bon, alors effectivement, il y a des sgoulottes, des combines qui n'agissent pas de façon rationnelle, de façon logique. Tu fais une certaine action, hop, ça donne un résultat. La réponse elle va être rapide, après on va un peu étayer et donner quelques exemples, d'accord? D'abord, des sgoulottes qui sont fausses, des inventions, n'importe quoi. Ça, c'est clair qu'il ne faut pas les faire. Il y en a qui sont des sgoulottes sérieuses, qui proviennent de sources sérieuses. Et c'est clair que venant de sources sérieuses, elles ont un poids. Maintenant, quelle importance leur accorder? Ce n'est pas toute la Torah. Il y a des gens, pour eux, la Torah, c'est les sgoulottes. C'est certain que ce n'est pas ça. Il y a d'autres qui sont dans l'autre extrême, qui disent jamais, c'est pas du tout, on est très très froid et rationnel. Un juste milieu. Alors, je vais donner un exemple de Sgoula, de Chazal, qui fonctionne. Il y a dans le Talmud beaucoup de combines médicales. Très bizarre. T'as mal au ventre, tu dois faire comme ci, t'as mal au nez, tu dois faire comme ça, toutes sortes de... On a vu maintenant Baleratan, c'est quelqu'un qui a une sorte de maladie comme ça, dans le cerveau, et... Pardon ?
Un reptile dans le cerveau.
Hein? Attends. Qu'on doit faire pour le soigner, c'est toute une sorte de truc, prendre une sorte de mixture de toutes sortes de végétaux, qu'on met 300 verres sur, qu'on fait 300 verres qu'on verse sur sa tête. Après, ça ramollit son crâne, on ouvre le crâne, on voit dedans une sorte de petite bestiole qu'on ne doit pas prendre parce qu'elle attache ses. Bon, des tas de trucs qui ont l'air de la science-fiction.
C'est une opération, ça se fait
une sigoula. Une certaine opération, mais c'est une sigoula, on te dit comment faire. C'est... D'accord. Il y a beaucoup de combines de ce type dans le Talmud. Alors, dans les lois médicales, il y a un chapitre dans Shulchan Aruch, Ilchot Rofe, les lois du médecin. D'accord. C'est le chapitre Shin Lamed Vav 336 de Yoredea. Ça commence, Natna Torah Reshut Lerapot. La Torah autorise la médecine. On aurait pu croire que de quel droit, toi maintenant, tu vas et tu t'opposes à la volonté divine. Tu envoies une maladie à quelqu'un. C'est Dieu qui a voulu. Il dit, tiens, prends cette pilule, ça passe. Tu te révoltes contre Dieu, mon cher ami. Dieu envoie une maladie, il veut que le type souffre, toi lui donnes une pilule, c'est terminé, il fait une opération. Non, la Torah a autorisé. C'est pas le mieux. Si Dieu envoie une maladie, il veut qu'on fasse une introspection en nous-mêmes, qu'on voit qu'est-ce qui ne va pas et qu'on revienne à Dieu, et normalement la maladie elle doit disparaître. C'est plus de notre niveau. Shulchan Aruch a été écrit déjà il y a 500 ans, et il lui ramène des écrits encore médiévaux, d'accord ? C'est l'idéal. C'est très rare, des personnes qui sont capables, par l'introspection, de trouver quelle est la source du problème. Les médecins, la médecine moderne, elle est d'accord, elle dit que la majorité, même qui dit que c'est la totalité des maladies, sont psychosomatiques. Ça veut dire que tu as une source qui est dans le psyché, psyché signifie âme en grec. Cette source de problème, elle agit, elle donne son symptôme dans le soma, qui est le côté physique, d'accord? Les maladies sont des symptômes physiques d'un mal spirituel. La médecine moderne le reconnaît, ou dans la majorité des cas, ou dans tous les cas. Ça dépend quelle école de médecine. Alors, paradoxalement, la médecine ne soigne jamais la source. Elle ne connaît pas les problèmes spirituels. Elle connaît les problèmes, les symptômes physiques. Alors, elle va soigner le symptôme. Mais ce n'est pas la bonne solution. Parce que quand tu soignes le symptôme, mais le problème spirituel, il reste, il va sortir autre part. Donc, idéalement, on devrait aller faire un travail spirituel et voir en quoi je ne suis pas en phase avec la source de vie, avec Dieu. Mais c'est très dur à notre niveau de le faire. On devrait le faire. Et on doit le faire. Mais ce n'est pas certain qu'on y arrivera aussi bien. Alors la Torah dit, on t'autorise maintenant de prendre un court-circuit. Effectivement, tu peux aller maintenant, en allant physiquement, avec la médecine, avec tout toutes les technologies modernes, aller tenter d'endiguer la maladie, de la soigner, de la guérir. Ça va aussi dans le sens de ce que Dieu veut. Mais ce n'est pas l'idéal. Mais néanmoins, c'est permis. Maintenant, dans ces lois, dans cette page du Shulchan Aruch, il y a là-bas les annotations de Rabbi Kaveh Eiger. Rabbi Kaveh Eiger, qui est un des grands, grands rabbanim ashkénazes, il vivait il y a 250 ans, 300 ans en Allemagne, en Pologne, je ne sais pas, d'accord, un des grands géants de la Torah, hein, vraiment. Et il cite là-bas les paroles de Maharil. Maharil est un autre grand géant de la Torah ashkénaze qui date du Moyen-Âge. D'accord, un des grands rabbins du Moyen-Âge, Maharil. Et dit comme ça, au nom des élèves de Maharil, les élèves disent comme ça, Maharil nous a dit que toutes les combines médicales qu'il y a dans le Talmud, il est interdit de les pratiquer. Pourquoi ? Parce que on ne connaît pas le principe. C'est-à-dire que quand tu dis du Talmud ce qu'il faut faire, on te dit, voilà, tu as le problème X, tu agis comme ça. Bon, on ne t'a pas expliqué tout dans le détail comment, pourquoi ça fonctionne de cette façon. Quelle est la posologie ? Combien de temps ? Dans quel dosage ? Etc. C'est vraiment très très succinct, beaucoup trop. Et étant donné que tu ne sais pas exactement quel est le principe qui sous-tend cette combine, tu vas l'appliquer. Ça va rater, la personne ne va pas guérir, et les gens vont se moquer des paroles de Chazal, ils vont dire c'est de la blague, tu vois, on a fait, ça n'a pas marché. Donc ton Talmud, comme cette page-là, ce qui marquait ce texte-là, il est faux, qui interdit d'allumer la lumière Shabbat, aussi c'est faux, d'accord, et interdit de marier avec une Goya, surtout aussi belle que ma voisine, donc c'est aussi des bêtises. Donc pour pas que les gens en fassent confusion, tu dis halt, les paroles de Chazal sont vraies, véridiques, c'est toi qui ne sais pas comment les faire. Et vu que les gens vont confondre et croire que c'est non, c'est pas toi, tu sais très bien faire, t'es un bon médecin, c'est Chazal qui se plante, donc on interdit tout, à part une exception. Ce qui est marqué dans Traité Shabbat, page 67a, celui qui a avalé une arête et s'est bloqué dans la gorge, ou un os, d'accord ? Un os de poulet, quelque chose, tac, bloqué dans la gorge. C'est marqué dans le Traité Shabbat, page 67a, qu'il faut prendre un même type d'arête, c'est-à-dire du même animal. Tu as mangé un peu de dorade, tu as un os de dorade dans la gorge, tu prends un os de dorade qui est encore dans l'assiette. Si c'est, du pajot, d'accord, des sardines, n'importe quoi, tu as une arête, tu prends une arête aussi, tu as une arête dans ta gorge, tu prends une autre arête et tu la mets sur le crâne, ou quelqu'un d'autre, parce que des fois tu es en train de la vie et la mort, d'accord, quelqu'un prend une arête du même sort de poisson, pas forcément le même poisson, même sorte de poisson, d'accord, et pose sur le crâne. Et quelqu'un dans l'assistance dira, ou toi, si le malade, il peut le dire tout seul, mais d'habitude, il est en train, comme je dis, entre la vie et la mort, il est en train de paniquer, mais s'il peut, il le dira lui-même, sinon quelqu'un d'autre dira la phrase suivante, quatre mots, en araméen, had, had, nahit, bala, on répète ces quatre mots à l'envers, bala, nahit, had, had. Bien prononcé, par, mais bien had, da had, had, nahit, bala, bala, nahit, had, had. Ça signifie en français, un aiguisé, descendu, avalé, had, had, nahit, bala, avalé, descendu, aiguisé, un.
Ça marche.
Et dit Maharil, donc au Moyen-Âge, et le ramène à Rabbi Kaveh Eiger, cette combine a été expérimentée et vérifiée, c'est pour ça que seulement elle est autorisée. À tous les coups, ça marche, dit-il. Alors moi, mon expérience, des centaines de fois je l'ai fait, ça n'a jamais raté. C'est extraordinaire.
Vous, personnellement ?
Personnellement, bien sûr.
Vous avez tout fait tout le temps ?
Mes petits-enfants. Petits-enfants. Mon premier gendre. Il a tué des amis Shiva, Chevron, un truc super litaïque, très, très ashkénaze comme ça. Il vient des premières fois qu'il était chez nous à la maison, des premiers, avant le mariage encore, tu vois, il vient comme ça voir un peu la nouvelle famille, nous aussi, comme ça. Ma petite fille avait 7 ans, papa, j'ai une arrête. Elle connaît déjà le truc par cœur, papa, j'ai une arrête. Moi, je prends une arrête, je dis had, had, nahid, bala, bala, nahid, had. Ah, on s'est passé, t'as quel pas. Je suis tombé dans la maison des sorciers, les vaudous. Non, après, je vais monter la béquille, il y a tout ça, c'est un truc archi connu.
Il était soulagé quand c'était
un truc qui marche. À l'époque, bon, ça je racontais souvent déjà, même ici sur Internet. À l'époque, je connaissais le truc. On faisait des séminaires. Il n'y avait pas encore Internet, on faisait des séminaires donc entre 60 et 120 personnes, comme ça pour un week-end. Et toujours le vendredi soir, il y a le poisson traditionnel de Shabbat. Mon rêve était que quelqu'un se prenne une, que se bloque une arête dans la gorge. On fait ça en live, d'accord ? Bon, alors arrivé le repas, puis je souhaite à tout le monde bon appétit. Attention aux arêtes, mais en cas où, et je raconte le truc. Ah, les gens sont vachement intéressés et tout ça. Alors une fois, on avait un séminaire comme ça au Canada, dans la forêt environ une heure au nord de Montréal, la forêt, d'accord, la forêt, rien que la forêt, des ours polaires et la forêt, pas polaires, mais des ours canadiens, d'accord. Il y avait, c'était une bande de jeunes entre 17 ans et 20 ans, des fous, d'accord. La nuit, on dormait pas. Le matin, le bureau du directeur d'hôtel en défoncé, les machines à boissons mises en enfin, des jeunes un peu gays, d'accord. Je raconte le truc. Il y a un qui dit, je veux essayer. Quoi, tu veux essayer? Je vais essayer. Ça marche? Oui, ça marche, c'est garanti. J'essaye. Il prend une arête grosse comme ça. Il l'avale. Ça bug dans la gorge. Alors, il prend un peu de pain, il fait dévaler. Ça passe pas, ça reste là. Là, il devient tout blanc. Parce que si ça marche pas, mon truc, on a une heure de Montréal, il n'y a personne hein, y a, dans la forêt, personne aux alentours. Shabbat, soir.
Il a pris la semaine, si vous pouvez mettre...
Bien sûr, c'est complètement fou. Ok, alors je le lève, je fais 6 heures sans assistance, je raconte le truc à tout le monde, et on tente le coup. La vérité, j'ai eu peur. Pourquoi? Le truc, il marche. Mais pour qui il marche? Pour les gens normaux, pas pour les fous. D'accord?
Parce que peut-être pour la personne qui a fait.
Voilà, peut-être que Dieu va dire à mon vieux, crève, d'accord? tu fais le crétin. Bon, bah, au Hachem, Dieu n'a pas voulu que cet homme, qu'il y ait un grand qui douche Hachem. On prend l'arrêt, je fais la had, had, nahid, bala, bala, nahid, hatad, c'est passé. Moi aussi je vais essayer, un autre copain, moi aussi je vais essayer. Il a essayé, on a refait, et ça a marché. Et plus tard j'ai commencé dans le séminaire, même faire une conférence en sciences et Torah, puis à la fin on était très 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 rationnel, puis à la fin je donnais un petit truc comme ça, les Sfaradim, les Ashkenazim, ils n'aiment pas du tout, mais les Sfaradim, ils aiment bien ce truc un peu comme ça, ce qu'un peu magique, ils adorent. Alors on faisait ça, et puis bah, au Hacham, il y a eu beaucoup de gens dans mon raconté, une femme est venue une fois à un séminaire, elle a entendu ça, puis après un autre séminaire, et vous savez, ça a marché. J'étais à ta trouille, j'ai eu une arête, j'ai eu tellement peur, j'ai pris tout le poisson, j'ai mis sur ma tête. Elle a dit, et ça a marché. Par téléphone, une fois ma tante, on va voir, elle décède maintenant d'une autre maladie, mais une fois, comment on fait? Par téléphone, ça marche aussi. Non, c'est un truc, c'est badou, c'est des centaines, Shulchan Aruch te dit, tout est interdit, ça c'est clair que ça marche. Maintenant, où est le rapport de cause à effet entre dire une phrase avec une arête sur la tête, et c'est même pas le type, des gens m'ont dit, non, mais c'est lui qui dit had, alors ça le fait comme ça, pas du tout, c'est pas lui, c'est un autre qui le dit. En plus, il ne crache pas. D'habitude, il y a deux options. Ou il crache l'arête, ou il avale. Dans presque tous les cas, il avalait. Ça disparaît. Des fois, ça arrivait. Une fois, on a eu un Pessah. Un Pessah collectif avec 300-400 personnes. Et donc, on m'a appelé une petite fille qui avalait une arête. C'est dans la grande salle à manger. Tout le monde est en train de manger. Un bruit terrible. Je vois le papa qui secoue sa fille dans tous les sens, comme ça. Là. Je lui dis, mets une arête sur la tête. Il me regarde comme un fou, d'accord. Il connaît le jeu. Je lui dis, mets une arête sur la tête. Bon, je lui prends tac, je mets. Had, had, nahid, bala, bala, nahid, had, had. Lui, c'est passé. Il m'a dit non. Alors, des fois, ça arrive. Ce que c'est passé. Mais il y a encore un peu l'impression. La gorge, on sent encore un peu le. Je dis, il se peut que c'est passé, mais toi, tu sens encore. Tu crois que c'est ça. Vérifie bien. C'est passé, oui ou non? Et oui, c'est passé. Oh, des centaines de cas. Je ne sais pas pourquoi celle-là et pas les autres. J'ignore. Ça, c'est quelque chose de grand comme Ariel qui connaît. Lui connaissait le comment et le pourquoi des choses. Elle peut dire ça, c'est facile. Peut-être les autres, c'est un peu plus compliqué. D'accord. C'est comme le médicament. Des fois, il faut. Des fois, t'as une piqûre. Des fois, c'est facile. On peut le faire. Des fois, il faut aller à l'hôpital. Des fois, c'est intraveineux. C'est chaque cas. Maintenant, il y a des sgoulottes qui aident. Mais ce n'est pas à tous les cas. D'accord? Alors, qu'est-ce que je connais encore comme sgoulotte? Il y en a beaucoup, des sgoulottes. Il y a une sgoula pour retrouver quelque chose qu'on a perdu, qui marche très bien. Pardon?
Avec le torchon?
De faire un nœud. Ça, je ne sais pas de quoi ça vient.
Pour retrouver quelque chose,
je crois que ça vient, c'est une coutume arabe. Il y en a qui font, ils prennent un habit et font un nœud comme ça. D'accord? Un truc de chez nous, ça c'est pas du tout arabe, c'est tout à fait juif. On dit une phrase. « Adi Rabbi Binyamin », je vous le traduis en français, on le dit en hébreu, mais en français comme ça. « Adi Rabbi Binyamin », bon, je vais le dire en hébreu et traduit en français. « Amar Rabbi Binyamin »,« Adi Rabbi Binyamin »,« Hakol Becheskat Sumin », tous sont considérés comme des aveugles. « Ha Shekut Bokhu », jusqu'à ce que Dieu, « Noten Rechut La'in Li'ot », donne autorisation à l'œil de voir. « Shenemar », comme il est dit, « Va'ifka Chetanea », il a ouvert ses yeux, « Va'tere » et elle a vu. C'est dans le cas de Agar, la servante et femme d'Abraham, qu'Abraham a renvoyé. Et elle était dans le désert, et son fils avait soif, et il n'y avait pas à boire. Alors Dieu, elle a prié, Dieu lui a ouvert ses yeux, et elle a vu une source d'eau. Donc on dit que les hommes sont tous considérés, les hommes et les femmes, les êtres humains sont considérés comme des aveugles, tant que Dieu n'a pas l'autorisation à l'œil de voir. Alors, quand tu as perdu quelque chose, c'est là, c'est quelque part dans la maison, ça ne t'a pas trouvé. Alors on dit cette phrase-là, on cherche, d'habitude on trouve. Maintenant, si c'était volé...
C'est une vraie Ségoula qui marche,
ça? Ouais, ça marche, ça marche. Alors, c'est une Ségoula, ça veut dire, ça a beaucoup de chances de marcher, mais ce n'est pas 100%. La Ségoula que je dis maintenant, de Hadrat Nachin Bala, pour l'arrêt, ça c'est du 100%. Juste en passant aussi pour cette Hadrat, les gens m'ont demandé aussi pour d'autres choses, quelqu'un qui l'avait, il a maintenant, il a pas un os, il a une arête, il a une graine d'olive ou d'aliment, d'accord? Il y en a qui m'ont dit que ça a marché. Mais je ne sais pas. Voilà. Mais je ne sais pas si ça, peut-être que ça marche, mais pas en tant que ce goût-là, 100%. Ce qui est marqué, 100%, c'est ça. Donc, ça peut aider aussi en périphérie, dans des cas similaires, plus ou moins. Mais c'est pas 100%. Dans le cas maintenant d'une perte, c'est pas 100%. Des fois, quelqu'un, et Dieu veut qu'il ait perdu, il a vraiment perdu. D'accord? Ou des fois, ça a été volé. Ou des fois, il a jeté la poubelle, et la poubelle a été prise et été menée.
Si
il n'y a pas rien à faire.
Si elle l'a ramassé, c'est considéré comme du vol après.
Pas dans tous les cas, c'est du vol, ça dépend si c'est un signe, pas un signe, c'était après Youche, pas avant ou après Youche, peu importe. En tout cas, si c'est dans la périphérie où il peut le retrouver, très souvent, qui m'a raconté ça? Un garçon qui m'a dit qu'une fois, il était en mer, il est allé se baigner avec ses lunettes. Chose à pas faire, d'accord? Ça oublie, des fois, on oublie qu'on a les lunettes, tac, et elles viennent, bah, plus de lunettes. Et il cherche, et il cherche, et il cherche. Et il y avait un vieux rabbin avec une grande barbe comme ça, qui était aussi dans la mer comme ça, avec sa chemise blanche comme ça. Le grand religieux se baigne avec une chemise comme ça, pour le soleil aussi, pour un peu pour la signoute, pour la pudeur. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mes lunettes. Bon, écoute, cherche par là, moi je cherche par là. Bon, il cherche, il se retourne, puis il voit que le rabbin, comme ça, il sort sa manche comme ça, il met sur sa tête, il double comme ça, il fait, tiens, voilà, j'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que j'avais fait? Il dit, bah, j'ai donné le truc. Et une fois, nous, on a eu une balade, une fois, au nord, avec la Yeshiva, c'était il y a 15 ans au moins, d'accord? On traversait dans un wadi comme ça, il y a une eau boueuse brune, d'accord? Complètement opaque. Puis un œuf qui passe, tac, lunettes qui tombent dans l'eau. Et ben, j'ai fait le truc, pic! D'accord? Ils ont cherché avant, tout le monde va comme ça, sous l'eau, blou, 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 d'accord? Non, c'est un truc qui marche. Alors, c'est pas dans tous les cas, c'est pas au million de pourcents, mais c'est un truc qui peut marcher.
Tu peux trouver cette phrase?
Je l'ai dit.
67
pages.
Hein?
Non. Khad Khad c'est 67. Je te l'ai donné maintenant, voilà. Va sur lava.fr, on peut trouver ce goût-là. Il y a ce goût-là pour se marier.
C'est pas.
Ouais. Pour les garçons et filles.
Hein?
Non, ça, c'est une goût-là que j'ai entendu de Rav Gidon Moshe, qui était le Chavota de Rav Yosef Zatzal. Il m'a dit, Badou, comme nous, c'est une chose vérifiée, expérimentée et vérifiée. Et beaucoup l'ont fait, pas tout le monde s'est marié, mais beaucoup l'ont fait et ça a marché. Oh, une fois sur deux, ça marche. Ça vaut la peine de le faire, toutes celles et tous ceux qui sont bloqués pour le mariage. Alors, faut passer en bateau sur une mer, un lac ou une rivière, aller d'un bout à l'autre, et sur le chemin, d'une côte à l'autre, et sur le chemin, il faut dire, il faut que je me rappelle exactement. Alors, je sais qu'il faut dire, ceux qui sont intéressés peuvent aller mettre sur lava.fr, là-bas, il y a ce goût-là pour se marier, dans le blog, ils trouveront tout de suite dans tous les détails. En deux mots, si je me souviens bien, on dit 7 fois. On dit d'abord on dit en Tehilim, dans le chapitre 119 des Tehilim, il y a des Tehilim qui sont classés d'après l'ordre alphabétique. Pour chaque lettre d'alphabet, tu as 8 versets qui commencent par la lettre Aleph. Tu as 8 versets qui commencent par la lettre Bet. Après, tu en as 8 qui commencent par la lettre Gimel, etc. Alors, il faut dire son nom, son prénom, donc. Fils, toi-même. Moi, je veux me marier, par exemple, Ron Moshe Ben Aviva, c'est mon nom, d'accord? Alors, celui qui a un nom, 3 noms de lui et 3 noms de son père, de sa mère, ça dure un peu plus longtemps. Mais voilà, Ron Moshe Ben Aviva, alors je dis Resh, j'ai tous les versets, les 8 de Resh. Après, les 8 versets de Vav, 8 versets de Nous, ça fait Ron. Après Moshe, 8 versets de Mem, 8 de Shin, de Hey. Après Ben, 8 versets de Bet, 8 versets de Nun. Après Aviva, etc.
Le nom du père.
Mère, nom de la mère. Et ça prend déjà un petit moment en Tehilim. Ouais. Et après, il faut dire 7 fois le Tehilim 91, Yoshev Besser Elyon, le dire à l'endroit et à l'envers. C'est-à-dire que tu lis les mots.
7 fois à l'endroit et 7 fois à l'envers.
Voilà. 7 fois à l'endroit et à l'envers. C'est aller, retour, 7 fois.
Et à quel moment on doit faire ça?
Quand tu es sur le bateau.
Quand on est sur le bateau, mais une fois arrivé.
Non, entre les deux côtes. D'accord?
En rame, au moment où on
Non, tu peux le ramener. Tu peux prendre un bateau qui est piloté par un capitaine. Il n'y a pas de problème. Hein? C'est pas une Gemara, c'est une Segula. Il y a beaucoup de choses qui viennent de...
Et les Segulas qu'on voit dans Tehilim à la fin, pour la fièvre, pour...
Alors ça s'appelle Shimush Tehilim. C'est-à-dire que Tehilim, c'est bon de lire ce Tehilim pour cette raison. Bon, c'est bien, ça aide. C'est pas...
Un Tehilim de rien du tout, on va le lire, mais c'est
pas... Ça aide. Segula, ça veut dire que c'est Mesuga, ça veut dire que ça aide dans ce sens. Il y a des Segulas qui sont, comme je dis maintenant, qui sont 100%. C'est très rare. Il y a pas la seule que je connais, c'est Khad Khad Nahid Bala. Donc il y en a qui marchent bien, il y en a qui marchent moins bien, il y en a que simplement ça aide. Il y en a que ça aide un peu. Il y en a que ça aide un tout petit peu. Voilà, c'est chaque chose ce goût-là. D'accord ?
Le top du top, c'est la prière.
Maintenant, tu as tout à fait raison. Le top du top, c'est la prière. Ça, c'est, de nouveau, c'est des goulots, c'est un peu comme une pilule, d'accord ? Un peu tout court-circuit HM. Bon, HM permet, c'est permis. Les goulots qui sont permis, les goulots qui sont interdits, des trucs où des fois on a mangé taref, ou des trucs qui sont tordus, d'accord ? Enfin, on ne peut pas. Les goulots qui sont permises, qu'il n'y a rien de grave à faire cela, citer certains mots, Zouglot qui fonctionne avec des noms de Dieu, des noms saints, c'est la Kabbalah déjà, ça c'est complètement interdit de le faire, d'accord, des trucs Kabbalah, Maasit...
C'est interdit, mais ça marche.
Ça marche, celui qui fait ça, c'est terrible la vengeance qu'il y a.
Pourquoi? De qui?
De Dieu. Celui qui utilise des noms de Dieu maintenant pour faire des combines, alors il se fait ratatiner d'en haut, très terrible. Où il meurt, où il devient pauvre, et les enfants anormaux. Des trucs terribles. Moi, j'ai un cousin de ma femme, qui lit la Kabbalah. C'est un rav sérieux. Je lui dis, c'est un vrai ou ça? Non, non, Rabbi Sanabacho l'a dit que c'était un bon, on pouvait compter sur lui. Et bien, il a eu des gros malheurs dans sa vie. Pourquoi? Ce rav du Kollel, de Kabbalah. Le rav du Kollel de Kabbalah. C'est un grand rabbin en Kabbalah, d'accord? C'est un bon, un vrai, pas un faux. Il y a beaucoup de faux kabbalistes. Je ne connais même pas son nom, d'accord? Les vrais bons, on ne les connaît pas, d'accord? Ils sont plutôt cachés. Ils sont en tout cas pas dans les pubs, ni sur Internet, ni dans les journaux. Donc, ce rabbin-là, il a eu des très gros problèmes. Et il sait pourquoi. Parce que quand il était jeune, il n'a pas tenu le coup. C'est très tentant, d'accord? Il a essayé pour voir si ça marche. Et ça marchait, bien sûr, ça marchait. Mais après, c'est terrible. Parce que qu'est-ce que c'est? Tu utilises Dieu. Tu utilises maintenant HM, les noms de Dieu, d'accord, des noms, tu utilises HM, maintenant, tu as besoin d'un petit problème. Dieu t'a envoyé maintenant ce problème-là. Il te permet d'utiliser les biais normaux, mais pas maintenant Dieu, je t'oblige, c'est des conjurations d'anges, tu obliges les anges, tu obliges des noms de Dieu à te servir. C'est très grave, c'est comme tu...
On peut faire tchouva dessus.
On peut faire tchouva surtout, mais c'est très très grave. Très très grave. Je ne sais pas si on peut faire tchouva là-dessus, c'est très grave.
C'est même pas pour vous jouer avec le nom de Dieu.
C'est rappeler certains noms de Dieu. Toi, tu connais pas ça, et mieux vaut ne pas connaître. Il y a des livres pareils. Je racontais souvent que mon arrière-grand-père, il avait la plus grande bibliothèque de livres de Kabbalah. C'était un grand féru de Kabbalah. D'accord ? Et quand j'étais jeune, mon oncle m'a demandé d'aller fouiller dans le grenier. J'étais jeune, je sortais de l'armée, d'accord ? Et lui était 30-40 ans déjà. Mais tu montes là-haut, je cherche maintenant. Il y avait un petit Sefer Torah comme ça qui voulait là-bas. Bon, je cherche, je vois une enveloppe. Comment on appelle ça, les plastiques, tu as les papiers pour développer de Kodak, d'accord, papier
de... Alors,
c'est des papiers photosensibles, donc pour pas que la lumière pénètre, tu as un plastique noir comme ça, c'est un plastique noir comme ça, fermé avec papier adhésif, c'est marqué Kabbalah Maasid, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, c'est l'auteur de toute la Kabbalah. Kabbalah Maasid, Kabbalah d'action, c'est quel nom? C'était dedans, non, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dedans, mais dedans, c'est tous les noms, toutes les combines pour agir ce que tu veux. Téléportation, devenir invisible, transformer, faire de l'argent facilement, toutes les combines, d'accord, les trucs.
C'est-à-dire, il n'y a pas un âge où on peut faire ça
C'est des trucs qui marchent. Mais bon, Hachem, c'est secret, et ça reste secret. Alors, je raconte un peu. Je demandais à mon oncle, c'est quoi ça? Il a sauté comme ça, c'est pas pour toi, zip. Et depuis, ni vu ni connu. Et bien, Hachem. À quoi ça sert? Celui qui rentre là-dedans, c'est terrible. Terrible. Je te dis, c'est terrible.
Vous dites qu'il y a des grands comme Baba Salé, il était sur un tapis volant, ou des choses comme ça, comment faire?
C'est pas Baba Salé. Alors, ça rejoint la question de Dan David. Baba Salé n'a jamais utilisé. Les noms, on n'utilise pas jamais, c'est interdit. Baba Salé et d'autres utilisent un biais beaucoup plus direct, permis que Dieu veut, la prière. Et c'est un truc qui marche. C'est marqué dans la Gemara, traité Brachot, Kurum Zout le Bnei Adam, Kurum Zulut, des choses qui sont au sommet du monde et les personnes ne prennent pas au sérieux, c'est la prière. Au sommet du monde. On ne se rend pas compte. On a un pouvoir énorme de prière. Simplement, il faut parler sincèrement à Dieu. Mais tu ne peux pas, bien sûr, pas être plein de péchés. même quelqu'un qui a peur de péché, la prière, elle marche. D'accord ? Mais c'est mieux d'être propre, ça marche mieux. Il y a beaucoup d'écrans. Il y a beaucoup d'écrans dans le péché, ça fait des écrans. Quand on prie, Dieu écoute. Maintenant, tu vas me dire, alors moi j'ai beaucoup de gens qui ont prié, ils ne sont pas exaucés. C'est vrai, c'est pas, il n'y a pas magique. Des fois, Hachem, il pense que c'est comme ça et pas autrement. Et Tzrak Avinu, il était stérile. Il a prié 20 ans pour que sa femme tombe enceinte. 20 ans ! 20 ans ! Et Tzrak Avinu, ce n'est pas toi et moi, c'est Tzrak Avinu. D'accord ? Abraham, Israël et Jacob, on rappelle leur nom dans l'Amida, c'est des gens de calibre pas énorme, gigantesque.
Pour lui, 20 ans, pour nous, c'est 2 jours.
Hein ?
Pour lui, 20 ans, pour nous, c'est 2 jours.
Non.
C'est
non.
En fonction de.
Non, non, au contraire.
Pour lui, 20 ans, nous, c'est 50.
Pour lui, 20 ans, pour nous, c'est 2000 ans. D'accord. Non, mais ce que lui a fait en prière, d'accord, nous-mêmes, si on prie 2000 ans, on ne pourra pas y arriver. Et pourtant, il a dû prier 20 ans. Il leur demande, Dieu, donne-moi un enfant, à la seconde, Dieu lui donne. C'est qui, Tzrak Avinu ? Eh bien non. Chazal dit pourquoi ? Hashmini colère qui colère à rêve. Dieu lui a dit, fais-moi écouter ta voix, car ta voix est agréable. C'est tellement doux. De façon imagée, aux oreilles de Dieu, d'entendre qu'on lui demande, qu'on l'implore, il dit, ok, vas-y, continue. alors nous, on ne se rend pas compte. Mais ces prières-là, elles ont un poids énorme. Des fois, Dieu veut qu'on prie. Alors, c'est pas toujours qu'on sera exaucé, mais la prière en soi est très grande. Des fois, on sera exaucé, c'est le moyen que Dieu a mis en place. Il nous demande d'habitude, quand il nous met un manque, qu'on a un besoin, il veut qu'on prie. Il se peut qu'en priant, on va remplir ce manque et Dieu nous donnera la chose pour laquelle nous prions. Et très souvent, c'est comme ça. Des fois, non. Des fois, Dieu veut qu'on prie, c'est tout. Et la prière en elle-même, déjà, une chose qui est très grande.
Mais c'est vrai qu'il a prié 20 ans. Pour que sa femme puisse tomber enceinte. Et on a des rabbinim qui ont fait de nos jours, même avant, comme le rabbin Ben Sienna Shaul.
Mais pas toujours.
Ils ont fait la.
Mais
la
pas toujours.
Tout de suite,
mais pas toujours. Le rabbin Ben Sienna Shaul, Baba Saleh, Ramon Vaillé, beaucoup de grands. C'est un mot, tac, des miracles. On a vu des miracles. Mais pas toujours. Pas toujours. Un type est venu une fois le voir. Il a dit que voilà, le rabbin Ben Sienna Shaul, j'ai la maladie. Cancer, voilà, poumon, machin, plein. Il dit, t'es guéri. Ah, mais quoi, Lara ? Les médecins, ils ont dit, voilà, il y a les photos, les machins, tout ça. T'es guéri. Oui, mais quoi, Lara ? Ils m'ont dit, voilà, c'est. Tu vois la maladie là ? Parti. Bon, il était revoir les médecins, il dit, monsieur, plus rien. En Israël, les médecins sont habitués à ça. En France, ils ne comprennent rien, d'accord ? Ils ne sont pas habitués. Et ils sont en Israël, et ils savent très bien qu'il y a limite à la médecine, après il y a la prière. Et ça, ils ont vu. Les petits médecins ne savent rien du tout. Les grands médecins qui sont déjà habitués, ils ont vu des miracles. Ils sont habitués à ça, des miracles sans cesse. Maintenant, moi, ma belle-mère, décédée d'un cancer. J'ai demandé au Rav Benson au moins entre 500 et 1000 brachot. Et il n'a pas guéri. Elle n'a pas guéri. Et quand je lui ai demandé qu'il en pensait, il m'a dit... Du genre. Voilà. Ça, oui, ça va, il savait très bien. Ah, c'est pas dans tous les cas. Des cas oui, des cas non. Ah. Idem avec la prière. Nous, on ne sait pas maintenant. Est-ce que j'ai un manque. D'accord ? Je prie à Dieu. Si dans le ciel maintenant, c'est un rien, il manque un petit millimètre, allez, ta prière, tac, c'est bon, tu reçois. Des fois, il te manque 100%. La prière, ok, c'est bon, elle fait 10%. Il manque encore 90%. On ne sait pas les desseins de Dieu. Donc, ce n'est pas forcément à tous les coups que la prière, elle passe. Mais quoi, est-ce qu'il y a d'autres moyens ? Il n'y a pas d'autres moyens. La tchouva, la prière, les bonnes actions, la tzedaka, et c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Et des fois, Dieu nous amène un manque pour qu'on fasse cela sans que forcément il va répondre à notre demande, parce qu'il pense que c'est mieux de pas. Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Quelqu'un, par exemple, il veut se marier, il veut cette fille, voilà. Il prie, elle ne veut pas de lui. Alors, ben heureusement, parce que si tu maries avec elle, mon vieux, ça aurait été la catastrophe. Alors, comme un petit gosse qui pleure, il veut maintenant ça, il veut, qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas moi, il veut jouer avec les allumettes. Un papa idiot, bon, il t'a tellement pleuré, tiens, prends les allumettes, allez, amuse-toi. Il met le feu à la maison. Dieu sait que nous ne voyons pas l'image de façon complète, donc il sait ce qui est bien pour nous. Et même qu'on pourra prier des heures pour une chose qui est mauvaise pour nous, il dira non, non.
C'est dire quoi qu'on dit prier sincèrement à Dieu ? C'est évident qu'on va prier sincèrement.
C'est dire quoi sincèrement ?
Sincèrement, c'est dire, quand on est maître. Seul avec Hachem, c'est on va de soi qu'on va prier, c'est ça ?
Quand tu es émet, authentique, avec seul avec Dieu, oui. Mais par exemple, quand tu fais ta Amida, tu pries. Et tu rajoutes ton petit prière dedans. Fait que je raconte mon zidouk rapidement. D'accord, bon, mais c'est pas... imploré, tu parles à Hachem du fond de ton cœur. Et...
on peut lui parler comme ça.
Ouais, il faut lui parler comme ça.
Et c'est plus fort de parler seul comme si on parlait à quelqu'un, ou c'est...
Les deux sont importants. Une prière, il y a des prières qu'on fait avec nos propres mots. Et les plus sincères habitudes, parce que c'est pas que je dois emprunter un texte qui n'est pas le mien. Elle a le petit problème que c'est pas une prière que moi j'ai fait, que j'ai moi et composée. Pourquoi c'est un petit problème? C'est un petit problème, pas un gros problème. Pourquoi? Parce que par rapport à la prière qu'on a reçue des prophètes, la Amida, qui est instituée par les prophètes, eux ils ont mis en place une prière qui est une échelle que tu montes, tout d'un coup tu te retrouves très très haut. D'accord? Le problème c'est que vu qu'eux ont mis l'échelle, des fois on monte sur l'échelle, mais on pense à autre chose. D'accord? Tu es en train de faire du ski nautique et tu montes sur l'échelle, mais tu n'es pas sur l'échelle, tu es dans le ski nautique. Donc tu dis les mots, mais t'as pas, il n'y a pas de prière. Tu dis les mots, c'est une récitation. Ce qu'il faut arriver, le top, c'est de dire la Amida, tel que les prophètes nous ont institués, avec une kavana comme si c'était le propre mot que tu dis. Baruch Adonai, l'homme de